à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Robert Bégoin, bonjour. Et merci d'être venu pour un second entretien au sujet des fameuses, très fameuses dans le monde de la préhistoire en tout cas, cavernes du Volpe, dont je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté votre précédent dialogue, que votre famille est propriétaire d'une colline sur laquelle il y a trois grottes, avec dans deux d'entre elles quantité de peintures et de sculptures même, puisque les fameux bisons d'argile sont des modelages en terre, tout à fait exceptionnels, mondialement connus, et que vous préservez jalousement dans votre famille, parce que vous avez ce devoir de transmettre. Donc, on a parlé la dernière fois de ces grottes, de la façon dont vous les aviez découvertes dans la famille, et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la vie des Magdaléniens, c'est-à-dire des gens qui habitaient il y a 17-18 000 ans dans notre région, en l'occurrence en Ariège, puisque c'est là que se situe le Volpe. Et la façon, est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont vivaient ces gens? Parce que je crois que sur les trois grottes qui sont sur votre colline, il y en a deux qui ne servaient sans doute qu'à des cérémonies, en tout cas dans laquelle on retrouve des représentations, et la troisième était une grotte habitée, c'est bien ça?
Voilà, c'est la grotte d'Anlaine.
La grotte d'Anlaine.
Alors la grotte d'Anlaine est un habitat très important, un des plus importants des Pyrénées, qui a fonctionné pendant un bon millénaire, entre 16 et 17 000 ans. Après, il y a eu d'autres périodes antérieures, mais ça serait un peu au gravetien. Ça serait trop long d'en parler aujourd'hui. On va donc se fixer sur le Magdalénien. Les Magdaléniens sont des nomades ou semi-nomades qui suivaient les grands gibiers, le bison, le renne, le cheval. Et accessoirement d'autres animaux comme le bouquetin, etc.
Des chasseurs.
Des chasseurs-cueilleurs, des chasseurs.
Oui.
Mais comme vous savez, on a dans l'art pariétal que les animaux, on n'a pas, il y a des conventions graphiques absolues pendant tout le temps de l'art. Il n'y a pas le ciel, il n'y a pas les champignons, il n'y a pas le sol.
Il n'y a pas les arbres.
Il n'y a pas les arbres, il n'y a pas la lune, etc.
Ouais. Ils ne représentent que les animaux.
Que les animaux.
Et exceptionnellement des hommes.
Voilà, exceptionnellement.
Pratiquement jamais.
Alors dans la grande Anlaine, là on en est réduit aux animaux, puisque on fouille dans leurs déchets.
Ouais.
Alors, la fouille, c'était une fouille de déchets du quotidien. Il y a une couche assez importante où l'on retrouve bien des quantités de desquilles d'os et les outils, les armes, la parure. Les trois. Hein. Alors, les outils, ce sont d'abord le silex, des dizaines de milliers de silex. On pourrait faire une causerie rien que là-dessus.
Ouais.
Il y a eu des livres sur l'art de tailler le silex, qui quelquefois vient de loin, il s'est changé, le silex, depuis la Dordogne, le Grand
Prix. Il y avait déjà une notion de commerce, en quelque sorte.
Le commerce, on ne sait pas, mais en tout cas, des échanges.
Des échanges
ça,
avec
sûr.
D'autres...
Avec, oui, le Grand Prissigny, à 400 km dans l'Aisne,
ouais.
Les Pyrénées Atlantiques, tout ça, on a des... Les spécialistes savent tout de suite reconnaître d'où vient tel et tel silex, évidemment.
Donc ces hommes se déplaçaient.
Ah, ils se déplaçaient. Ils suivaient les rennes, les bisons, parce qu'un troupeau de rennes, c'est 10 000 rennes.
Ouais. Mais alors, on est à une époque glaciaire, un peu.
Glaciaire, mais d'abondance au niveau du gibier.
Oui.
Et c'est peut-être cette abondance qui a motivé peut-être l'éclosion de l'art, l'éclosion de la culture de l'esprit, parce qu'il faut avoir le ventre plein pour penser peut-être à autre chose, quand même.
Voilà. Très bonne remarque.
Et donc,
ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est resté dans le langage
non,
populaire.
Non, mais oui, c'est le langage populaire. Mais donc on retrouve ces ossements, ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'ils chassaient en priorité, l'époque à laquelle ils chassaient. Pour nous, c'est plutôt des habitats de printemps, parce qu'on retrouve des fœtus. Ils n'étaient pas écologistes, ils tuaient des femelles gravides avec le fœtus dedans, et on trouve... dans nos fouilles des ossements de fœtus assez souvent.
Donc là, ils habitaient dans la grotte. Et est-ce qu'ils habitaient en périphérie de la grotte ou est-ce qu'ils habitaient toute la grotte ?
Les Magdaléniens ont préféré le fond, ce qui est encore un mystère et qui est peut-être relié au fait que la grotte d'Orlaine, par un boyau de 60 mètres de long, très difficile d'accès, est reliée, c'est l'entrée de la grotte des Trois Frères. L'entrée du sanctuaire, si vous voulez.
Les grottes étaient connectées ?
Orlaine et les Trois Frères, pas le Tuc. Mais Orlaine, elle est connectée vers le fond. Il y a un boyau qui part, qui avait été bouché au 19e siècle par les anciens fouilleurs, à la pelle et à la pioche, et ça a sauvé la grotte des Trois Frères. Donc les Bégois le trouvent par un avène dans lequel ils descendent. Donc, ils trouvent à ce moment-là une autre grotte totalement intacte.
Donc, vous me disiez
ils
habitaient au fond, c'est-à-dire à un endroit où il fait quand même nuit.
Ah oui, il fait 200 mètres dans le. C'est très, très profond.
À 200 mètres de profondeur.
On ne fait pas 200 mètres sans lampe. Il faut une lampe, il faut des lampes à suivre. Ça, c'est...
Et ils arrivaient à vivre là, donc.
Alors là-bas, ils faisaient des feux. On a trouvé des foyers assez importants qui devaient les éclairer aussi. Pas les chauffer, je pense que les chauffer c'était une notion qui n'existait pas à cette époque-là, mais les éclairer au moins. Et on retrouve toutes ces traces, par exemple la parure est très 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 nombreuse et très riche.
Des colliers ?
Alors des colliers, des perles, on a trouvé des endroits de fabrication de perles, c'était des ateliers même. Des ateliers, la fouille a permis et l'informatique a permis de repérer les endroits où sont fabriquées les perles, les déchets de stéatite, de lignite, etc. Et également les contours découpés. Les contours découpés, c'est une spécialité du sud, des grottes du sud de la France. En Dordogne, il y en a beaucoup moins. Et là, nous avons dans la grotte d'Orlaine une quinzaine de contours découpés magnifiques, mais il y en a aussi au Mazazil.
Et alors, ces contours découpés, ils sont dans quel matériau ?
Des contours découpés, c'est un ossioïde de cheval, généralement, ou de bison, plus rarement. C'est sous la langue. Et il découpe cet os qui est déjà poli des deux côtés, et ils n'ont plus qu'à façonner cet os, mettre des yeux, le nez, la bouche, etc. Et ça fait de magnifiques petites têtes animales de 7 à 8, 5 à 6 centimètres de largeur à peine, sur des petits bijoux, de la parure qu'ils devaient porter, soit en collier.
Bijoux.
Ce sont des bijoux.
Donc c'est décoratif.
C'est complètement que décoratif. Ça n'a aucun. C'est pas un outil.
Ce n'est pas comme des lanceurs, vous évoquiez la dernière
fois.
Oui,
le lanceur, c'est les armes.
Le lanceur, ce sont des armes être décorées.
Voilà, il y a trois choses, les armes, les outils et la parure.
Oui.
Alors, les outils, c'est pour le quotidien. Il y a une aiguille, par exemple. Oui. Une aiguille, ça fait partie des outils. Oui. Alors, on a les matrices d'outils, les endroits où ils fabriquaient les outils, où ils fabriquaient les aiguilles. D'ailleurs, on pense qu'à Orlaine, c'était une école d'aiguilles, parce qu'on ne trouve pas des aiguilles, des matrices de très grande qualité, alors qu'on a des aiguilles de qualité. Mais on ne trouve pas les matrices de celles qui sont de qualité. Donc, ils devaient les amener d'ailleurs.
Ah oui.
Et on arrive à reconstituer la vie quotidienne.
Et là, dans ces grottes, deux questions. Est-ce qu'ils étaient nombreux et est-ce qu'ils n'étaient pas en concurrence avec, par exemple, des ours ou d'autres animaux ?
Non, l'ours des cavernes a disparu bien avant l'arrivée de l'homme. Il a disparu il y a une quarantaine de milliers, 30-40 000 ans. Donc quand ils arrivent, il n'y a plus d'ours. Il y a des ours bruns.
Oui.
Ils peuvent croiser éventuellement un ours brun, mais ça c'est plus facile à négocier avec.
C'est plus facile pour eux peut-être à l'époque, pour nous aujourd'hui.
Oui. Mais
donc ils ne sont pas en concurrence tellement avec d'autres animaux. Non, ils sont nombreux dans ces grottes.
Alors on suppose qu'ils devaient être entre 20 et 30, parce qu'à moins c'est pas possible. Il y a les vieillards, mais enfin l'âge moyen est de 27 ans. Alors, mais il y a eu quand même quelques vieillards. Il y a quelques nouveau-nés forcément. Donc on pense que entre 20 et 30 c'est un minimum pour survivre quand même, pour que le groupe puisse survivre.
Voilà. Donc c'est une famille un peu élargie.
C'est une ou deux familles, deux ou trois familles peut-être.
Ouais. Et on peut imaginer que dans les Pyrénées il y avait d'autres sites habités comme ça qu'on n'a peut-être pas encore trouvé.
Il y a Gourdan, il y a des sites fameux comme le Mazazil tout proche. D'ailleurs, on est à 10 km du Mazazil et le mobilier se ressemble beaucoup.
Oui.
Ce qui fait que dans nos musées, on a à peu près les mêmes objets. On rêverait de trouver un objet qui recolle avec un morceau du Mazazil. Mais ça arrivera peut-être un jour.
Oui. On continue à fouiller au Mazazil.
Oui, il y a des fouilles actuellement qui viennent de reprendre.
Et chez vous, les fouilles sont terminées ?
Alors, les fouilles, nous avons fouillé 15 heures avec Jean-Claude et toute l'équipe de la Drac de Midi-Pyrénées. Ça a été une aventure formidable, on a trouvé beaucoup de choses. Et maintenant, nous avons encore des années et des années pour digérer, pour étudier.
Le matériau.
Et ça va se faire actuellement avec une équipe allemande, avec Andreas Pastor, mon bras droit actuel.
Ouais. Alors, votre modestie vous empêche de dire, mais moi, je le dois à nos auditeurs, que vous avez publié, en collaboration avec votre équipe, 3 monographies, une sur chacune des grottes, et que l'on peut se procurer dans le commerce. Alors, je crois qu'il y en a une qui est épuisée, d'après ce que j'ai compris, aux éditions d'art, c'est
voilà,
ça.
Soit dans notre site internet.
Ou sur votre site internet, ouais. Parce que, alors, comment on fait pour accéder à votre site?
Notre site internet, c'est Caverne du Vol, en minuscule et en tout ouais. Se tient, cavernesduvolp.com.
Volp, V-O-L-P.
cavernesduvolp.com et vous saurez tout pratiquement ce que nous sommes.
On peut se procurer.
Il y a un bulletin de commande pour les livres.
Alors qui sont des objets d'art extraordinaires. Si vous avez un beau cadeau à faire à un amateur de paléontologie et de préhistoire, je vous conseille ça. C'est Robert Bégoin qui est en face de moi, qui en est le maître d'œuvre et qui a écrit l'essentiel.
C'est une de mes grandes joies de ma vie. Ça,
oui, c'est le couronnement de votre vie d'avoir publié le dernier tome qui est sur en laine, je crois.
Les monographies sont finalement très rares et beaucoup de grottes des Pyrénées n'ont pas encore la leur.
Oui, c'est une belle œuvre. C'est remarquablement imprimé, mis en page avec des photos.
C'est vrai que nous sommes fait plaisir. Un petit peu, on a été aidés, non seulement par l'État, mais par de nombreux amis.
Ouais.
Certains prestigieux.
Donc, on peut tout savoir sur les grottes, sur la façon dont vivaient nos ancêtres, puisqu'ils sont ariégeois, et c'est tout à fait passionnant. Robert Bégoin, merci pour ce deuxième entretien. À la semaine prochaine.
Merci, monsieur Sire.